Rubrique divers. Il y a 70 ans, janvier 1945, Renault nationalisé, tout sauf une conquête ouvrière. Présenté autrefois par la direction du Parti communiste comme une conquête ouvrière de la libération, la nationalisation de l'entreprise Renault en janvier 1945 fut au contraire le symbole d'une mise au pas des travailleurs par un gouvernement désireux de faire redémarrer les affaires de la bourgeoisie. Une légende bien ficelée par la société d'histoire Maison présente les frères Renault comme d'ingénieux entrepreneurs qui, grâce au talent de bricoleur du jeune Louis dans son petit cabanon au fond d'un jardin de Billancourt, lancèrent une véritable aventure industrielle du XXe siècle. Grâce à un pécule de 60 000 francs or venant de leurs parents et à des terrains familiaux situés près de la Seine en banlieue parisienne, la première usine Renault et ses ouvriers travaillant 12 heures par jour produisirent les premières automobiles individuelles. La Première Guerre mondiale leur fournit ensuite, outre une certaine notoriété grâce aux taxis de la Marne, un marché de véhicules militaires, de chars, d'ambulances et d'obus. Les voyages sur le nouveau continent, eux, permirent à Louis Renault d'importer les méthodes d'Henry Ford avec le travail à la chaîne et le fractionnement des tâches. Une usine moderne ouvrit sur l'île Seguin en 1929. En 1939, Renault était devenu le troisième constructeur du pays. De la collaboration à la nationalisation. Légère ombre au tableau, l'amateur de voyage fut photographié avant-guerre au salon de Berlin en compagnie d'Hitler et de Göring. À l'instar de la plupart des grands patrons français, il maintint la production sous l'occupation. Camions, tanks, avions, moteurs d'avions, bombes incendiaires, canons anti-chars furent construits entre 1940 et 1944 par Renault pour l'armée allemande. Louis Renault devint donc à la libération une cible. En septembre 1944, il fut arrêté et incarcéré à l'infirmerie de Fresnes. Quelques jours plus tard, les biens de la société anonyme des usines Renault étaient mis sous séquestre. Un administrateur provisoire fut nommé et Louis Renault mourut en prison en octobre 1944. Le 15 novembre, le Conseil des ministres décida la confiscation de Renault et l'ordonnance de nationalisation était promulguée le 16 janvier 1945. La vraie raison de cette décision était que, au sortir de la guerre et dans une économie moribonde, les capitalistes français avaient besoin de l'aide de l'État pour repartir à la course au profit. Le gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle procéda alors à de nombreuses nationalisations, en particulier dans l'énergie, la banque, la production d'armement. Mais concernant Renault, demeurée bénéficiaire pendant la guerre, même si en partie détruite, De Gaulle expliqua plus tard avoir voulu, entre guillemets, placer sous la coupe de l'État l'usine pilote par excellence. Pour l'exemple en quelque sorte. Concrètement, la société anonyme fut dissoute, son actif et son passif passant aux mains de l'État. Les participations de Louis Renault, propriétaire à plus de 95%, furent confisquées, les autres actionnaires étant indemnisés. L'usine devenait, entre guillemets, régie nationale, dotée de l'autonomie financière et dirigée par un président-directeur général, assisté d'un conseil d'administration et d'un comité central d'entreprise. La légende de la participation ouvrière à cette régie tenait en tout et pour tout sur un total de 15 membres du conseil d'administration à 6 représentants du personnel choisis par le ministre parmi les délégués du comité central d'entreprise. La, entre guillemets, bataille de la production. La vie des ouvriers dans l'usine nationalisée n'eut rien à envier à ce qu'elle était des années auparavant. Bien au contraire. La, entre guillemets, bataille de la production, fer de lance de la politique des staliniens du Parti communiste, membres du gouvernement provisoire avec De Gaulle, la SFIO et les centristes du MRP, entraînait des cadences démentielles et de dangereuses courses à la productivité. La régie Renault confiée à la présidence de Pierre Le Faucheux, connu dans les réseaux de résistants gaullistes, les FFI, sous le nom de, entre guillemets, commandant Gildas, s'était vu fixer pour objectif, aussitôt reconstruite, de produire encore et encore. pour accélérer l'exploitation des ouvriers en ce lendemain de guerre où la nourriture était encore rationnée et les salaires strictement encadrés par l'État, il fallait une autre autorité que celle des chefs et contremaîtres à la réputation ternie par l'image de collaborateur attaché à Louis Renault. De Gaulle, en impliquant les dirigeants du Parti communiste dans le gouvernement et la vie politique, comptait bien prévenir tout dérapage social. En même temps, les militants communistes engagés dans cette opération remplaçaient avantageusement l'encadrement pour relancer la production. Celle-ci s'emballait, mais les salaires étaient loin de suivre. Chez Renault, selon une note des renseignements généraux de l'époque, entre guillemets, les salaires étaient jugés très inférieurs à ceux pratiqués dans les autres usines de la région parisienne. Le PC intervint alors auprès du ministre du Travail, Ambroise Croizat, PCF lui aussi, pour augmenter la cadence au-delà de la limite fixée sous prétexte déjà de « travailler plus pour gagner plus ». Car la CGT de l'usine, loin de réclamer une augmentation de salaire, ce dont elle s'abstint jusqu'en 1947, observait attentivement les consignes de limitation salariale du gouvernement. C'est le PDG lui-même, Pierre Lefaucheux, qui dut intervenir pour mettre fin aux accidents croissants en baissant la cadence. Entre guillemets, l'entreprise sociale. Il fallut la grève d'avril-mai 1947, menée par des militants trotskistes de l'Union communiste, dont Pierre Bois à l'origine de lutte ouvrière, pour obliger Renault à faire quelques concessions sur les salaires, et le PC à quitter le gouvernement pour éviter de continuer à se discréditer dans la classe ouvrière. Plus tard, la régie Renault se forgea une image, entre guillemets, sociale, en dépit de son fonctionnement banalement capitaliste. Banc d'essai de la politique des gouvernements de la 4e puis de la 5e République, elle accorda à ses salariés la 3e semaine de congés payés en 1955, puis la retraite complémentaire, puis en 1962, la 4e semaine de congés payés. À chaque fois, il s'agissait de désamorcer une éventuelle extension des luttes engagées par des travailleurs d'autres secteurs. C'est ce qui valut à l'usine sa réputation journalistique de, entre guillemets, forteresse ouvrière, en rapport lointain avec les luttes des ouvriers de la régie. Mais en guise de social, la régie Renault montra également l'exemple d'un recul en licenciant en 1961 3000 travailleurs à un moment où la législation, bien souvent violée, interdisait encore les licenciements collectifs quand l'horaire hebdomadaire de l'entreprise dépassait 40 heures. Mais les impératifs de préservation des profits de l'entreprise, même nationalisée, prévalaient en un moment de ralentissement économique. Trois décennies plus tard, en juin 1990, Michel Rocard, le premier ministre PS de François Mitterrand, ouvrait le capital de Renault tout en conservant les trois quarts à l'État. Puis une alliance avec Volvo, ensuite avec Nissan, ramenèrent cette participation à 15% dans le capital de Renault. Le long épisode du statut régie débuta sous des auspices aux allures collectives, soulignés par la propagande stalinienne. Mais l'entreprise Renault servit surtout pendant des années de locomotive aux affaires de la bourgeoisie. À ses dizaines de milliers de salariés, elle ne fournit au fond ni plus ni moins d'avantages que ceux que la lutte dans les usines Renault ou ailleurs leur permirent d'acquérir. La nationalisation ne fut jamais pour eux une garantie, et les gouvernements s'en débarrassèrent d'ailleurs quand elle ne leur convint plus. Pour les travailleurs, la perspective n'est pas de prendre le contrôle d'une entreprise dans le cadre du système capitaliste, mais bien celui de l'ensemble de l'économie. Viviane Lafont.